MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, je vous l'ai dit, on fait une mini-série pour les couples hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment se relever après un divorce. Alors hier, on a donné des conseils pour les couples en crise, pour redonner vie à vos couples. Et bien entendu, l'objectif est absolument de pouvoir sauver son couple. Mais on le sait, et Frank l'a dit hier dans des statistiques, il y a des divorces, même chez les chrétiens. Et aujourd'hui, on veut vous aider à pouvoir ressortir, non pas complètement meurtri de ces divorces, mais de pouvoir vous relever également. Et je suis avec Nadine et Frank.
Hello.
Hello, Yveline. Hello, Frank.
Ça va bien?
Ça va bien, et toi?
Mais oui, ça va très bien. Et on le rappelle, hein, il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc, si vous n'avez pas écouté l'émission d'hier, allez l'écouter. Et Nadine, aujourd'hui, donc, tu vas faire une rubrique couple et relations sur reconstruire après un divorce.
Oui, une rubrique très importante parce que malheureusement, il y a des statistiques et les statistiques, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a des cas réels. Et l'idée pour ma rubrique, c'est tout simplement de parler à un homme ou à une femme qui est malheureusement passé par l'étape du divorce. Comment faire? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Qu'est-ce qu'on devient? On va parler de ça tout à l'heure.
Parfait. Et pour commencer, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est surtout voir ce que dit la Bible du divorce, que pense Dieu du divorce. Et c'est ta lourde tâche, Frank, aujourd'hui, dans la pensée du jour.
Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Alléluia! Ça, c'est ce que dit la Bible et Jésus précisément par rapport au mariage. Maintenant, il y en a parce que vous êtes rendu tellement dans un état d'esprit, tellement profondément en colère, tellement parfois désespéré, découragé, que oui, il y a un passage où Jésus parle de l'adultère. Et ça, c'est un fait. S'il y a un adultère qui est commis, il y a une porte qui pourrait s'ouvrir. Mais personnellement, je crois qu'une porte qui pourrait s'ouvrir pour le divorce. Mais je ne crois pas personnellement que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je ne crois pas qu'on doit sauter derrière l'excuse de l'adultère pour partir en courant au plus vite. Chaque situation a sa complexité. Chaque situation nécessite un suivi pastoral, d'aller vers des gens qui vont pouvoir vous aider. Mais ma conviction personnelle, c'est que une histoire de miracle, un témoignage puissant peut en sortir au lieu de se dire « ça va s'arrêter là ». Et je crois que, dépendamment de la situation, je me répète, mais je crois aussi vraiment qu'il y a des histoires aujourd'hui qu'on peut entendre de des couples qui ont choisi le pardon et de reconstruire au lieu de prendre la porte de sortie qui pourrait sembler plus facile sur le moment, mais qui a parfois sauvé une famille tout entière. Les enfants ont continué à grandir avec les parents, qui se sont aimés à nouveau, qui se sont épanouis à nouveau, qui ont commencé à s'aimer d'une nouvelle façon. Ça a été un témoignage fort pour même les gens autour d'eux que Dieu est un Dieu de miracles et qu'il veut aider et qu'il veut voir des couples être rebâtis ou fortifiés par rapport à ce que vous vivez. Parce que des fois, on est tellement, comme je l'ai dit, bouleversé par un événement. Premièrement, je veux t'encourager, laisse le temps passer un peu. Il y a des situations ou des choses qui ont pu être dites ou des affaires qui ont pu être des actes commises qui ont créé des blessures parfois très profondes. Il faut apprendre à laisser le temps agir aussi, s'en remettre au Seigneur, le voir agir et aller vers des personnes qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir nous conseiller personnellement. Mais aujourd'hui, Evelyne, dans l'intro, tu as dit « qu'est-ce que Dieu » ou « qu'est-ce que Dieu pense » entre guillemets. Mais moi, je pense que Dieu, ce qu'il aime par-dessus tout voir, et on l'a vu à travers du ministère de Jésus, c'est des vies restaurées. Et donc oui, si c'est arrivé, Dieu peut restaurer, mais je crois que l'idéal, c'est de vivre et de traverser cette tempête, alors que tout semble tellement compliqué, le Seigneur pose sa main, Il y a deux personnes qui sont là parce que dans un couple, il y a deux personnes. Les deux vont penser avoir raison à tout prix. Les deux vont penser à, que la chose la plus importante, c'est de se faire dire que eux, non, c'est pas de ta faute, c'est la faute de lui. À un moment donné, il faut grandir, il faut vieillir, il faut maturer. Et il faut se dire, on est dans une situation, si un a commis une chose ou a dit une chose, il faut apprendre à être humble. Et là, je vais me répéter, il faut apprendre à être humble et à demander pardon quand il le faut. Et l'autre, au lieu de vouloir chercher à paraître supérieur et ci ou ça, on pardonne et on aime. Et on se dit, on va continuer à grandir ensemble. Maintenant, quand on le vit, c'est pas aussi facile parfois, mais je veux vous encourager à vous dire que la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Et que deux personnes qui s'aiment vraiment, malgré qu'il y a eu une tempête, ils peuvent en sortir plus fort qu'auparavant. Et ça, des témoignages sont là. On peut le voir. Des gens l'ont vécu. Mais ça n'a pas été forcément toujours facile. Mais ils se sont dit, on va s'accrocher au Seigneur et on va vivre notre vie ensemble. On va surmonter ça, qu'est-ce qui a été vécu. Parce qu'avec l'aide de Dieu, on peut faire des choses extraordinaires. Rien n'est impossible. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à balayer ces pensées, de dire, c'est la porte de sortie facile. Hier, je l'ai mentionné. Tellement de gens, le divorce explose présentement. Les gens vont vite se tourner vers le divorce parce que c'est la chose la plus facile, parce que ça, on se prend pas la tête et c'est plus, ah non, je vais aller au prochain, lui, il va m'aimer comme que je vais être aimé. Et finalement, les statistiques même le prouvent que la deuxième relation a encore une plus grande probabilité d'échec que la première. Donc, pense pas que tout va être merveilleux de l'autre côté avec une autre personne ou telle personne que tu as déjà commencé à regarder. Non, t'es encore marié. Respecte la personne avec qui tu es et cherche à pouvoir, avec l'aide de Dieu, ressortir de cette situation plus fort qu'auparavant.
Merci, Frank. Bien oui, comme tu l'as dit en début de ta pensée du jour, le divorce n'est pas du tout le plan parfait de Dieu pour les couples. Et au contraire, Dieu veut que les couples restent unis, que les couples restent ensemble, puisque la Bible dit que dès le moment où on se marie, où on se connaît, on devient une seule chair. Et une seule chair, normalement, ça ne se sépare pas, en fait. C'est pas juste collé. Il y a vraiment un mélange. On devient une seule chair. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, certains d'entre vous, vous nous suivez et vous avez dû faire le choix difficile, le choix douloureux du divorce pour toutes sortes de raisons, certaines légitimes, d'autres moins, mais peu importe. Le fait est qu'aujourd'hui, vous êtes ressorti de cette situation avec le cœur en miettes parce qu'un divorce, ça fait mal. Quand on ne se marie pas dans le but de divorcer et encore plus en tant que chrétien. On s'attend. Et certains d'entre vous, vous avez mis en place tellement de choses pour sauver votre couple, pour sauver votre mariage. Et malgré tout, aujourd'hui, vous vous retrouvez à ce constat terrible de vous dire « Mon mariage est fichu, je me retrouve seule, retour à la case départ. » Peut-être qu'il y a des enfants, il y a des situations compliquées, il y a des enfants. Et vous passez au travers de tout ça aujourd'hui. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à faire confiance au Seigneur. Et j'ai un verset à vous proposer aujourd'hui. Il s'agit de Ésaïe 57 au verset 15. « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. » Mais écoutez bien, il y a un « mais ». Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Le Seigneur aujourd'hui veut vous encourager et veut vous dire qu'il est avec vous dans cette situation que vous traversez, dans cette peine que vous avez, ce cœur meurtri, abîmé, ce découragement profond dans lequel vous êtes. Le Seigneur qui vit dans les hauteurs, qui est saint et élevé et parfait, vient aussi auprès de vous pour vous consoler et vous encourager.
Amen. Quelle parole encourageante. Et tu parlais on parle de la pensée de Dieu par rapport au mariage. Et moi, j'aime toujours me rappeler que le mariage est une alliance. Et la pensée de Dieu par rapport à l'alliance est tellement claire et il nous montre l'exemple du Seigneur lui-même. La Bible va dire qu'il y a un moment donné, Dieu voudra frapper le peuple d'Israël, mais à cause de l'alliance qu'il avait avec David, il ne pouvait pas en fait. Et pour dire que Dieu respecte tellement l'alliance que nous, en tant que ses enfants, lorsqu'on rentre dans l'alliance du mariage, ce n'est pas juste se mettre ensemble parce qu'on s'aime bien, c'est pas juste voilà parce que nos destinées entre guillemets sont compatibles, mais c'est vraiment une alliance en fait. Amen. Et dans les statistiques que tu as données, Frank, hier, quand tu parlais que c'est dans les 5 premières années qu'il y a beaucoup de séparation, ça nous montre que des fois on rentre et on a on n'a pas la bonne réflexion, la bonne compréhension de l'alliance, en fait. Si on rentre dans l'espoir d'être rencontré dans nos besoins, dans l'espoir d'être rencontré, voilà, dans nos manques, dans ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance, etc., c'est sûr qu'on se met déjà pas du bon côté. Et vraiment, je veux encourager surtout les jeunes couples, parce que comme tu disais hier, il y a plein de cas. Et l'idée n'est pas d'aller dans les cas spécifiques, voilà, d'un homme qui te bat, d'une femme, voilà, qui a eu 5 amants. C'est pas ça qu'on parle. On parle de monsieur, madame, tout le monde, d'un couple, voilà, normal, entre guillemets, mm-hmm. qui s'est marié, et que là, ben, voilà, il parle pas mon langage d'amour. Voilà, ça me convient pas. Et du coup, je veux partir. Mm-hmm. Mais de dire à ces gens-là, il y a une alliance, en fait.
Oui.
Et lorsque je réalise l'importance de l'alliance, comme tu as dit hier, Frank, le mariage est supposé être heureux. On n'est pas là pour souffrir, s'endurer jusqu'à ce que la mort nous sépare. On n'est pas là ne pas divorcer parce que culturellement, c'est compliqué ou bien administrativement, c'est compliqué. Non, on est là pour rester mariés et être heureux. Oui. Donc, Seigneur, je comprends la portée de l'alliance. Aide-moi maintenant à mettre en place. Si déjà dans ma pensée, je ferme déjà... La case divorce n'existe pas. Oui. L'option divorce n'existe oui. pas. Tout d'un coup... C'est comme si les solutions vont se voir.
Oui.
Mais tant que l'option divorce, elle est là, ben, ça va être la solution qui va se présenter à moi facilement, en fait. Et ce n'est pas pour minimiser le cas de chacun. Chaque personne a son cas de figure. Mais de nous-mêmes, en tant qu'hommes mariés, femmes mariées, de se dire, le divorce ne fait pas partie des cartes que j'ai dans mes mains.
Vraiment.
Le divorce ne fait pas partie des cartes que j'ai dans mes mains. On va aller en thérapie, on va aller rencontrer le pasteur, on va aller rencontrer tes parents, on va aller rencontrer mes parents, on va parler à qui il faut, on va prier, on va jeûner. On va trouver une solution.
Mm-hmm.
Mais dès que j'enlève l'option divorce, tout d'un coup, je m'ouvre aussi à une nouvelle possibilité. Et le Seigneur commence aussi à me travailler.
Oui.
À me travailler. Il y a des choses, en fait, c'est ma perception, c'est ma réaction. Et du coup, j'ai l'humilité, comme on a dit hier, de travailler sur moi-même et on peut reconstruire, en fait.
En fait, et là, on essaie de grandir ensemble, tout le monde. Hein, mm-hmm. Et on essaie de maturer dans tout ça. Et aujourd'hui, c'est comme si... La case divorce, je suis d'accord avec toi à 100%, Nadine, c'est comme si elle est là. Mais en fait, elle n'est pas là.
Non, elle devrait
En fait,
pas.
Et c'est pour ça, comme j'ai dit, on n'est pas dans une position de donneur de leçons, mais c'est juste de la parole, ce qu'elle dit.
Ouais.
Jésus a peut-être, oui, il a dit ça. Il y a des affaires discutables, absolument. Mais une crise de après un an, je ne suis plus capable de le sentir, et donc je fais... Mais en fait... C'est pas une option. Si on craint Dieu, la crainte de Dieu, entre guillemets, fait que non, c'est pas une option. Les options sont de trouver une solution. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Et donc, c'est comme si c'est une option pour l'enfant de Dieu, juste parce que ça va mal ou on vit une petite tempête. Et si ça me semble compliqué, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais l'option, elle est pas là. Elle n'existe pas. Pour Dieu, on ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Mm-hmm.
Les deux qui sont devenus une chair vont le rester. Et là, si c'est pour des petites choses comme ça, il faut se dire que c'est même pas qu'elle est une option. Et c'est ce que Nadine voulait dire, en fait. C'est même pas là. C'est juste que c'est devenu normal aujourd'hui qu'elle soit une option.
Mm-hmm.
Mais elle l'est pas.
Oui.
Pour l'enfant de Dieu, elle l'est pas. Et donc, il faut arriver qu'à avoir ce raisonnement-là. Tout à fait d'accord, Nadine. C'est quelque chose qui doit être dans chaque enfant de Dieu. C'est cette histoire de non, le divorce, c'est même pas. Je pense même pas à ça.
Mm.
J'ai interdit le mot même de sortir de la bouche, de ma bouche ou de ta bouche. Mm-hmm. On se met d'accord. Mm-hmm. On ne prononce même pas ce mot
ouais.
parce que ça amène gros des dégâts.
Vraiment. Et je ne pensais pas partir là-dessus, mais j'ai vraiment cette pensée très, très forte sur mon cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que vous avez divorcé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est mm-hmm. encore possible. Mm-hmm. Et j'aimerais vous raconter un témoignage d'un couple qui n'est pas chrétien du tout, mes anciens voisins. Ils sont arrivés dans la maison à côté de la mienne, une maman d'apparence célibataire avec 3 enfants, si je ne me trompe pas, quand même relativement grand. Et en force de discuter avec elle, elle m'explique qu'en fait, elle vient de se séparer et que là, elle essaye de rebâtir sa vie. Tu sentais que c'était difficile. Et le papa, tu le voyais de temps en temps le vendredi soir venir chercher les enfants. Il restait dans la voiture, il klaxonnait, les enfants sortaient. Aucun contact entre eux, rien du tout. Et les semaines passent. Je ne passe pas mon temps à la fenêtre, hein, mais j'ai vu, à force, on voit. Et là, les semaines passent. Et au bout d'un moment, il sort de la voiture quand même. Et hop, il va attendre à la porte. Il reste sur le pas de la porte. Il n'entre pas dans la maison. Et petit à petit, il a fini par rentrer dans la maison. Et un jour, je les vois devant ma fenêtre, je ne peux pas les louper, en train de s'embrasser devant la maison. Et en fait, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'ils rentraient à la maison, ils allaient s'embrasser. Ils repartaient, ils n'entraient pas, mais ils allaient s'embrasser. Et en fait, peu à peu, ils ont rebâti leur couple de cette façon-là. Et un jour, je suis allée parler avec elle. Je dis, bah, il se passe quoi avec ton ex-conjoint? Eh bien, ils se remettaient ensemble. Et ils ont déménagé à peine 10 mois après avoir acheté cette maison. Et ils ont déménagé, ils ont dit on a acheté une autre maison, la maison de la réconciliation, c'est comme la dernière chance qu'on se donne, on croit que c'est encore possible. Et ils ont rallumé la flamme, ils ont donné encore une chance à leur couple. Ils ne sont pas du tout chrétiens. Si eux ont pu le faire sans Dieu, je me dis que c'est possible que vous le viviez avec Dieu. Donc je voulais simplement vous donner cet espoir-là, que ce n'est pas parce que vous avez divorcé que c'est forcément complètement fini. Il y a encore de l'espoir. On a eu beaucoup de témoignages dans les rubriques « C'est mon histoire » de couples qui avaient divorcé, qui se sont remis ensemble et c'est encore possible. Et Nadine, je te laisse la place pour la rubrique « Couple et relations ».
Alors, pour cette rubrique très importante, je veux déjà merci, Yveline, pour ce que tu as dit, parce que j'avais la même pensée. Et je crois que c'est important de le voir. Moi, je me dis, on ne peut pas croire à un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui ressuscite les morts, un Dieu qui est venu de son trône de gloire pour nous sauver, et ne pas croire que le Dieu ne peut pas aussi ressusciter un couple qui est mort. La Bible dit que les cœurs de roi sont comme un fleuve entre ses mains. Il le fait tendre comme il veut. Et de la même manière, le cœur de votre époux, le cœur de votre épouse est comme un fleuve entre les mains de Dieu. Il faut le croire. Mais c'est important de se reconstruire. Là, on parle de se reconstruire après un divorce. Là, on arrive au cas final. Comme Yveline l'a dit, peut-être que vous avez vraiment lutté. Vous avez vraiment mis en place les enseignements, l'humilité, etc., etc. Et vraiment, la relation est terminée. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre vie s'arrête lorsqu'on a divorcé? Est-ce que notre vie continue? Qu'est-ce qu'il en est? On va regarder ça ensemble. Et comme Frank l'a dit tout à l'heure, on n'est pas en mode donneur de leçons, on est en mode échange entre frères et sœurs. Mm-hmm. Parce que c'est une épreuve que vous traversez, mais vous ne la traversez pas seule. Et comme il y a ce dicton populaire qui dit que quand la maison de ton voisin brûle, ben, tu réfléchis, tu vas l'amener de l'eau. Tu n'es pas là en train de le condamner, mais ça te donne aussi une réflexion. Et moi, pour être mariée depuis 22 ans, je crois.
À toi de me le dire.
On est en 2024, donc depuis 22 ans. Et on est ensemble depuis 25 ans. Ben, on est ensemble depuis longtemps. Et il y a eu des hauts et des bas. Mais comme il y a une pensée qu'on a eue, ben, on va rester ensemble. Mais il y a une grâce aussi. Je ne pourrais pas dire que c'est parce que je suis tellement une bonne épouse, parce qu'il est tellement bon mari. C'est parce qu'on a la grâce de Dieu, tout simplement, qui nous aide à nous pardonner, à nous parler, à nous aimer, qui rajoute cet amour dans notre couple. Et c'est Dieu qui le fait. Et je crois aussi que Dieu peut le faire pour vous. Amen. Alors, je vous partage ce verset, le psaume 121, les versets 1 à 2. La Bible dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et ce psaume, je l'aime beaucoup parce que tu te dis, quand tu es tout seul, on parle de se reconstruire après un divorce, et probablement vous avez divorcé, et bien, tous vos amis ont disparu parce que c'était des amis qui étaient des amis communs. Et là, ils se sentent tiraillés. Est-ce qu'on va avec l'homme, on va avec la femme? On ne sait plus trop. Peut-être que vous êtes une femme et les maris de vos amis ne veulent plus qu'elle soit avec vous parce que vous êtes une femme divorcée, entre guillemets. Peut-être que c'est vos amis femmes qui ne veulent plus que vous soyez à côté de leur mari parce que vous êtes une femme divorcée, entre guillemets, et vous vous sentez rejetée comme ça. Mais en tout temps, quand on est seul, on peut toujours lever les yeux vers Dieu et Dieu est toujours là. Notre secours nous vient de l'Éternel. Alors, quelques petites étapes pour se reconstruire après un divorce. La première, ce serait de faire le deuil de la vie passée. Parce que, voilà, le deuil de la vie rêvée, parce que voilà, vous aviez des rêves, il y avait une maison, 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, 2 voitures, je ne sais pas moi, des vacances. Il y avait toute une vie comme ça qu'on avait imaginée et cette vie rêvée n'est pas là. Et surtout lorsqu'on a fait l'effort, on a mis vraiment tout ce qu'il fallait et l'autre personne est partie, c'est comme si l'autre personne nous a volé du temps. On se dit, ben, tout ce temps qu'on a investi, et ben, tout notre avenir, en fait, même si je recommence avec quelqu'un d'autre, je serai toujours la deuxième. J'ai toujours recommencé dans quelque chose de patcher un petit peu, de 2 vies comme ça qui vont se mettre ensemble. Et cette vie rêvée-là, on la voulait, on a peut-être tout fait pour la garder, elle n'est plus là. Il faut faire le deuil de la vie rêvée pour pouvoir se reconstruire. Parce qu'il y a des gens que ça fait 10 ans que le divorce a eu lieu et ils sont toujours à la case de l'amertume parce qu'ils n'ont pas fait le deuil de cette vie rêvée. Et donc, c'est important aussi de dire, OK, ce qui est arrivé est arrivé. Voici comment j'avais prévu les choses. Et vraiment, mon cœur y était. J'avais travaillé pour que les choses aillent de cette manière-là. Ça n'a pas été bon. On tourne la page et on laisse le Seigneur nous reconstruire. La deuxième, c'est l'importance de l'introspection. Parce que comme on le disait tout à l'heure, les situations peuvent être multiples. Et on peut arriver à dire, ben, c'est l'autre. Mais dans le mariage, s'il y a une chose, c'est qu'on doit être des gens matures. Et une personne mature sait toujours qu'il y a deux, il y a deux, deux volets. Il y a toujours deux aspects. Il y a toujours deux perceptions, tu vois. Même si tu sais que tu as raison, quelque part, tu te dis, moi, je vois ça comme ça, mais l'autre personne l'a pu le voir différemment. Mmh. Et la maturité, l'introspection, c'est d'arriver à dire, l'autre personne l'a vu différemment et c'est sa vérité à lui. Tu vois, moi, j'ai vu à moitié vide. Lui, il l'a vu à moitié plein, mais pour lui, c'est à moitié plein. Et l'introspection est importante pour te permettre de te reconstruire. Frank a dit que dans les statistiques, même quand on se remet, des fois, on a moins de chances même de réussir le deuxième mariage. Pourquoi? Parce que déjà, on y va avec les blessures qu'on avait et les mauvais travers qu'on avait dans notre premier mariage. On ne change pas quand on arrive dans le deuxième mariage. On amène notre bagage, notre personnalité. Et les choses qu'on te reprochait avant, ben, c'est les mêmes choses qu'on va te reprocher aujourd'hui. Donc, l'importance de faire l'introspection, c'est de dire, OK, je peux me mettre sur la défensive et ne pas adresser certaines choses, ou je peux être mature et de dire, ce qui m'a été reproché, est-ce que c'est vraiment vrai? Où est la part de vérité là-dedans? Et c'est le Saint-Esprit aussi qui vient faire l'introspection réelle. Parce que si vous le faites avec votre propre intellect, vous allez vous condamner, vous sentir que vous êtes le pire ou la pire. Mais si le Saint-Esprit vient, Seigneur, ouvre mes yeux. Voilà, si je suis sous une mauvaise voie, ramène-moi sur la bonne voie. Et Dieu va te montrer, ah, tu sais tes accès de colère là, voici ce que ça fait. Ah, tu sais ton manque de pardon, voici ce que ça fait. Et voilà, c'est comme ça dans cette introspection que vous aussi, vous allez pouvoir vous reconstruire en tant qu'individu. La troisième chose pour se reconstruire après un divorce, c'est le choix des confessions de foi. La confession de foi, ça veut dire quoi? C'est qu'après le divorce, on a le cœur brisé. Même si il était tout ce qu'il était, elle était tout ce qu'elle était, on a le cœur brisé parce que cette personne-là, on l'a aimée. Oui. Et être franc avec soi-même, c'est de dire, oui, je l'ai aimée cette personne-là, je lui ai donné mon cœur. Et maintenant que mon cœur est brisé, l'amertume peut me faire parler. Naomi est revenue au pays d'Israël et l'amertume lui a fait dire, appelez-moi Mara. Et l'amertume peut nous faire parler. Et le choix des confessions de foi, c'est de commencer à dire, j'ai un avenir, j'ai de l'espérance. Oui, aujourd'hui, je me retrouve seule, comme toute cette dame avec trois enfants, ou seule comme un monsieur avec, voilà, je dois recommencer à zéro, mais j'ai un avenir. Et la confession de foi va être quelque chose qui va vous bâtir, qui va aider votre cœur à guérir et à regarder à l'avant, en fait. Comme le verset d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure, ça va vraiment vous aider. Donc, confessez, j'ai un avenir, j'ai de l'espérance, Dieu a des plans pour ma vie, le Seigneur m'aime et j'ai quelque chose qui m'attend devant moi. Ça va vous aider à vous reconstruire. Et ça m'amène à mon quatrième point, lorsqu'on nous a quittés. Parce que lorsqu'on nous a quittés, il faut se dire qu'il y a un sentiment de rejet profond qui vient. Si tu as tout fait, tu as fait tout ce qu'il voulait, tu as fait tout ce qu'elle voulait, et elle a choisi quelqu'un d'autre, il a choisi quelqu'un d'autre, tu as beau être le plus spirituel, tu vas te sentir rejeté. Tu vas te sentir pas aimé, tu vas te sentir pas désiré, tu vas te sentir mis de côté. Et c'est important à ce moment-là, lorsqu'on nous a quittés, de se rappeler qu'on est digne. On est digne d'être aimé. Peut-être l'autre personne, elle vous a quitté, puis elle n'est pas partie tranquillement. Elle vous a cassé. Elle vous a dit que personne n'allait vouloir de vous. Et là, vous allez laisser le Saint-Esprit vous reconstruire. Je suis digne d'être aimé. Je ne suis pas la pire. Il y a quelque chose de bon en moi. Je suis un homme qui est digne d'être aimé. Je suis un homme qui est digne d'être un chef de foyer. Peut-être l'autre personne, la femme, elle vous a laissé et vous vous sentez comme ça, là. Elle vous a tellement détruit que vous êtes grand de l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, vous êtes tout petit. Eh bien, quand on nous a quittés, qu'on se sent petit, on doit laisser aussi le Seigneur nous reconstruire en se disant nous-mêmes qu'on a de la valeur et qu'on est digne d'amour. Et lorsque c'est nous qui avons mis terme à la relation, parce que ça peut arriver, que c'est nous qui avons mis terme, comme on a dit tout à l'heure, on ne sait pas les raisons. Est-ce que vous avez mis terme parce que c'était de l'immaturité, peut-être vous étiez jeune et puis bon voilà, vous avez dit je m'en fous, j'arrête ça, ou parce qu'il y avait des choses vraiment graves qui se passaient, qu'aux yeux des gens... Voilà, les murs ont des oreilles. Derrière les portes fermées, on ne sait pas ce qui se passait. Et vous viviez des choses derrière les portes fermées qu'on ne sait pas. Et vous avez dû mettre terme à la relation. Et c'est important aussi d'adresser, par exemple, le problème de la culpabilité que vous pourrez ressentir, le regard des autres. Parce que peut-être les autres vont vous en vouloir, les autres vont vous pointer du doigt, elle ne s'est pas battue, alors que vous savez au fond de vous tout ce qui s'est passé, etc. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas dire non plus pour protéger la dignité qui vous reste. Alors, lorsque c'est vous qui avez mis terme à la relation, c'est aussi important de vous reconstruire par rapport à ces choses-là. Et à ce moment-là, d'avoir aussi l'humilité pour revenir en arrière. Il y a quelques temps, on a partagé un témoignage à l'église et ce couple est venu témoigner ici. C'est un couple qui a été séparé pendant 10 ans. Et pendant 10 ans de séparation, ils avaient déjà 4 enfants et l'homme et la femme ont fait leur vie de leur côté. Mais alors que le monsieur était parti, c'était lui qui avait, la dame avait été plus capable, mais elle voulait qu'il reste, mais il a choisi de partir. Dieu l'a rencontré. sur son chemin. Mmh. Et il a eu l'humilité, alors que c'était lui qui avait mis terme à la relation, l'humilité de laisser le Seigneur le transformer et l'humilité de revenir demander pardon. Et quand tu reviens demander pardon, on t'ouvre pas la porte du premier coup. Et d'insister, parce qu'il y a vraiment eu un renouvellement de l'intelligence à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment important, lorsque c'est vous qui avez mis fin à la relation, ça ramène au deuxième point de l'introspection. Quand le Seigneur vous rappelle que, écoute, mon alliance, est-ce que tu avais vraiment compris l'alliance? Est-ce que tu vois où sont tes fautes à toi? Est-ce que tu vois le pardon que tu aurais pu donner à l'autre, etc.? D'avoir reçu l'humilité de revenir en arrière. Et si vos yeux s'ouvrent et vous vous rendez compte que vous êtes trompé, de prier et d'avoir l'humilité aussi d'aller dire à l'autre personne. Et vraiment, j'aimerais finir par des clés pratiques. Hier, quand j'ai fait ma pensée, j'ai parlé de la pensée. De comment c'est dans notre pensée que le combat commence. Lorsqu'on veut se donner vie, on veut se battre pour notre couple, c'est dans notre pensée que le premier combat va commencer, parce que si dans notre pensée, on accepte que notre couple est fini, le couple, il va finir. Et j'aimerais vraiment vous inviter à veiller sur vos pensées. Et le divorce, c'est une action que nous posons, mais c'est aussi un esprit. La Bible dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le divorce, c'est aussi un esprit qui arrive. Donc, vous pouvez avoir une dispute avec votre conjoint, une incompréhension, et tout d'un coup, la pensée s'élève dans votre cœur. Ben, je vais faire sans lui, je vais faire sans elle. Mmh. Et cette pensée commence à nourrir, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et vous commencez même à regarder, même financièrement, à commencer à calculer votre maison, votre loyer, nanana. Vous vous mettez en mode, je ne veux plus. Et c'est comme, dès que la pensée dit, je ne veux plus, toutes les thérapies du monde ne vont pas fonctionner. Parce que directement, il y a ce mur-là de « je ne veux plus, je ne suis plus capable d'aimer, je ne suis plus capable de pardonner, je ne suis plus capable de regarder à une autre façon de faire, à une autre option. » Et vraiment, je vous invite, je sais qu'on parle de se reconstruire, mais même là encore, si vous vous rendez compte en fait que votre divorce a eu lieu parce qu'il y a eu la pensée, l'esprit de divorce a pris le contrôle de votre cœur et vous êtes complètement fermé, ma prière est que vous puissiez ouvrir votre cœur. Et de façon pratique, allez voir que ce soit votre thérapeute, votre conseiller pastoral, etc. Il y a des gens avec qui vous pouvez parler. Et si c'est déjà fait et que l'autre personne, elle a reconstruit sa vie, on a parlé que Dieu peut ramener des gens après 10 ans de mariage, donc on ne sait pas, après 10 ans de divorce, pardon, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais si l'autre personne est vraiment partie pour de bon et que vous, vous êtes là et vous devez vous reconstruire, dans mes clés pratiques, mes conseils pour vous, ne vous renfermez pas sur vous-même. Parlez, allez prendre de l'air, parlez à quelqu'un, ne marchez pas avec la honte de ce que vous avez vécu. Il y a toujours un lendemain. Dieu est un Dieu de deuxième chance. C'est le plan parfait de Dieu que nous puissions vivre dans une alliance qui demeure. Mais lorsque le plan des hommes intervient, ben, Dieu n'est pas mis au rencard non plus. Il peut encore intervenir dans nos vies. Il peut nous reconstruire et faire de nous des personnes épanouies malgré tout.
Merci beaucoup, Nadine, pour cette rubrique bien pratique. Pour aider chacun d'entre vous, et j'aimerais prendre juste un tout petit instant pour prier pour vous. Amen. Vous avez le cœur brisé, vous venez de traverser un divorce, ça fait peut-être 10 ans et vous n'êtes toujours pas relevé. Je veux simplement, Père, te remettre ces personnes entre tes mains et te demander de venir consoler leur cœur, de venir panser leurs blessures, de venir guérir en profondeur les meurtrissures, les traumatismes dus à ce divorce. Père, viens relever cet homme, cette femme qui suit cette émission maintenant, qui est découragée. Père, que tu puisses consoler, que tu puisses sécher toi-même les larmes, que tu puisses les couvrir et les remplir de ta joie, de ton amour et de ta paix, Seigneur, surnaturellement. Relève-les, relève-les de toutes leurs peines, Seigneur, que tu viennes consoler leur cœur comme toi seul sais le faire. Merci, Père. Merci pour cette grâce qui vient directement du ciel, qui vient sur eux maintenant même au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Je rends grâce à Dieu et je veux remercier tous ceux d'entre vous qui faites partie de la grande famille des partenaires dans cette campagne de dons. Tous ceux qui ont décidé de s'engager, tous ceux qui ont décidé de continuer leur soutien, tous ceux qui ont décidé d'augmenter même leur soutien mensuel. Vraiment, merci, merci de tout cœur. Grâce à vous, ces émissions ont lieu. Grâce à vous, on peut traiter ces sujets qui sont tellement importants. Et je veux vous encourager, si vous n'êtes pas encore partenaire et que vous voulez faire partie de cette grande famille, vous allez sur emcitv.com/20000 pour devenir vous aussi partenaire mensuel et soutenir cette œuvre d'EMCITV. Merci à tous et demain, demain, on se retrouve. Demain, on va parler de la puissance de la louange. Ta louange porte de grands fruits dans ta vie. Et nous aurons une nouvelle rubrique qui s'intitule « Une question, une réponse ». Et Nadine répondra à une des questions que nous vous avons posées. Quel est le rôle de la louange dans l'église locale ? Alors, à demain et merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.